Yves Michaud m'avait demandé de présenter le site central des résultats de mes recherches empiriques sur le rapport entre pouvoir, démocratie et communication dans un contexte de transformation organisationnelle et technologique de la communication. Donc, on sait que les rapports de pouvoir sont les rapports, sont le fondement de la société, parce que ceux qui se trouvent dans des situations de pouvoir définissent et construisent les normes et les règles des institutions de la société en fonction de leurs valeurs et de leurs intérêts. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, dans tout sujet, commencer par le pouvoir. Heureusement, là où il y a pouvoir, il y a toujours contre-pouvoir, même dans des situations extrêmes. Et par conséquent, la société est constamment faite de la dialectique entre pouvoir et contre-pouvoir, toujours avec des luttes, des compromis instables qui cristallisent dans les institutions de la société, qui construisent de nouvelles structures de domination qui sont à nouveau contestées, et c'est comme ça qu'on a passé notre histoire et qu'on passera notre histoire. À lutter, à discuter, à trouver des compromis qui permettent de vivre ensemble à travers des institutions, et c'est là où la démocratie arrive comme un élément essentiel de cette capacité de vivre ensemble. Mais ensuite, bien sûr, l'équilibre est rompu par de nouveaux intérêts, de nouvelles luttes, etc. Donc, pouvoir est central dans l'organisation sociale et contre-pouvoir est le complément, le résultat direct de l'existence des rapports de pouvoir. Et tout au long de l'histoire, le contrôle des communications et informations a été la source fondamentale du pouvoir et du contre-pouvoir. L'essentiel, c'est la bataille sur la pensée des gens, sur nos cerveaux, car ce que nous pensons détermine l'acceptation, le soutien ou l'opposition par rapport aux intérêts et valeurs qui se jouent dans la société. Le pouvoir, en dernière analyse, réside dans nos cerveaux, dans un processus complexe où nos décisions, comme l'a montré la neuroscience récente, je pense par exemple à Antonio Damasio, montrent que c'est à partir des émotions et des sentiments que nous construisons nos décisions. Et donc, l'essentiel, c'est comment nos réseaux au cerveau se construisent en rapport aux réseaux de l'environnement social et naturel dans lequel nous vivons. Eh bien, ce rapport entre les réseaux de notre cerveau et les réseaux environnants, c'est ce qu'on appelle communication. Et donc, la manière dont on communique, c'est la manière dont on sent, on pense et on agit. Voilà pourquoi ce n'est pas une question maintenant de cette société. Dans toute l'histoire, dans toutes les sociétés, c'est à travers la communication qu'on construit nos visions du monde, qu'on construit nous-mêmes et nos processus de décision et qu'on construit donc nos rapports aux autres à partir desquels on agit pour, contre ou en nous retirant des luttes pour le pouvoir. Et donc, quiconque peut modeler ce que je sens a du pouvoir sur moi. Mais si je peux intervenir dans le processus collectif de formation des émotions et des consciences, j'ai moi aussi du pouvoir. Car le pouvoir n'est pas une chose, c'est un rapport. C'est un rapport qui se définit entre acteurs sociaux et institutions qui cristallisent l'état des rapports sociaux dans la société. Donc, le pouvoir est d'abord pouvoir sur la capacité de communiquer et sur la formation de nos images à partir de cette communication, matériellement parlant, biologiquement parlant. Bien sûr, le pouvoir est aussi fondé sur le monopole de la violence, monopole légitime ou illégitime, et sur la capacité d'intimidation qui en résulte. Dans une vieille tradition qui va de Machiavel à Max Weber dans la pensée sociale, mais aussi on a une autre tradition dans la pensée sociale, Bertrand Russell par exemple, que je pense, et bien sûr Michel Foucault, où la capacité de persuasion, la capacité de construire des images dans notre cerveau, finalement, il ne parle pas du cerveau, mais c'est finalement le cerveau, est essentiel. Au niveau de l'action collective, ça se rapporte à ce qui a été l'analyse classique de Gramsci sur la notion d'hégémonie, la construction de l'hégémonie, c'est cela qui détermine de manière ultime les rapports de pouvoir. Et donc, violence et persuasion sont les deux grandes sources de pouvoir dans notre société, qui s'articulent dans chaque contexte, mais un pouvoir qui est fondé uniquement sur la violence, sur le long terme, est faible. Parce que s'il perd légitimité dans notre manière de sentir, dans la manière de sentir de la majorité de la population, ce pouvoir, d'un certain côté, commence à s'effondrer du moment où il perd la légitimité, la capacité de convaincre. Petite note en bas de page par rapport à la démocratie. Si on ne croit pas à la démocratie, il n'y aura pas de démocratie. Mais bien sûr, ce n'est pas un choix. Si la démocratie existe formellement, mais ne s'intègre pas dans nos pratiques, on peut croire à la démocratie idéale, mais pas à cette démocratie-là. Et donc, on voit que la capacité de gérer au niveau de la conscience des gens l'illusion démocratique ou l'espoir démocratique devient essentiel. Mais comment construisons-nous nos catégories et comment percevons-nous le monde ? Fondamentalement, à travers les signaux qui nous arrivent de notre environnement de communication individuelle et sociale. Et quand il s'agit de la communication que j'appelle socialisée, c'est-à-dire la communication qui arrive potentiellement à l'ensemble de la société, c'est la communication des masses, dont les formes et les contenus dépendent des technologies de communication et de l'organisation de cette communication. Ça a toujours été le cas, mais il est encore plus essentiel dans notre société, la société que j'ai analysée comme société en réseau, dans la trilogie de laquelle Yves Michaud a fait référence, c'est-à-dire une société qui est notre société, ce n'est pas la société de l'avenir, c'est une société, c'est notre société, société globale et locale à la fois, qui est basée sur une structure sociale qui est construite sur la base des réseaux dans l'ensemble des dimensions et des pratiques sociales, des réseaux qui sont construits par interaction entre signaux de la transmission digitale et de base microélectronique. Ça, c'est notre société de la même manière que la société industrielle avait été construite sur une certaine structure sociale qui dépendait de l'organisation sur la base d'une énergie de type nouveau qui a caractérisé la civilisation industrielle. Eh bien, l'environnement de communication qui largement conditionne notre manière de penser et d'agir est en train d'avoir une transformation fondamentale. Vous avez déjà entendu hier, aujourd'hui, un certain nombre de ces transformations, donc je ne vais pas m'impatienter sur le sujet, mais je veux quand même parcourir les points qui, ensemble, donnent un sens à cette analyse. L'essentiel, c'est l'avènement, la coexistence des formes de communication et entre la communication de masse et l'avènement rapide de ce que j'appelle l'autocommunication de masse. La communication de masse, c'est simplement un message d'un émetteur à une foule de récepteurs avec interactivité limitée et contrôlée. C'est ça la communication de masse. Par différence, l'autocommunication de masse, c'est l'émission de messages de beaucoup à beaucoup, interactive. Tout émetteur est aussi récepteur, et par des réseaux de communication largement incontrôlés. C'est totalement différent. C'est aussi de masse, mais c'est autonome. Et donc, l'argument que je présente est très simple. Je commence par la conclusion, donc si vous êtes pressé, vous pouvez partir et vous savez l'essentiel. Le pouvoir se joue fondamentalement dans notre relation complexe à notre environnement de communication. La communication de masse organisée autour des moyens de communication traditionnels ont changé les formes d'exercice de la démocratie depuis belle lurette, en fait. De manière à ce que la politique est devenue surtout et avant tout politique médiatique. Point. Ça, c'est déjà l'histoire. C'est notre présent, mais ça fait longtemps. La politique est politique médiatique. Point. N'est que politique médiatique. Il n'y a pas d'autre politique que médiatique. empiriquement parlant. Mais depuis un certain temps, l'avènement de l'autocommunication des masses transforme les rapports de pouvoir en élargissant le champ d'action pour les contre-pouvoirs dans la société. C'est ici que je vous présente les résultats de ma recherche empirique pendant les 10 dernières années qui est présentée dans ce livre dont Yves a parlé, Communication Power, que vous pouvez lire en une dizaine de langues, sauf bien sûr en français. D'abord, premier point. On le connaît, mais je pense que la progression logique doit commencer par là. Le plus simple. Les moyens de communication de masse, particulièrement le système qui est télévision, journaux, radio, presse écrite, c'est un système. Les journaux, la presse écrite ouvrent les informations et les problèmes, la télévision les diffuse et la radio organise une interaction limitée et contrôlée. Ça, c'est un système. La politique fonctionne dans ce système. Toute action ou message politique qui n'est pas dans les médias n'existe pas. Donc, faire de la politique, dans le sens le plus large du terme, pas seulement les élections, passe par l'espace médiatique. Les médias sont pluraux, bien sûr, mais ne sont pas neutres. Sont biaisés et conditionnés par toutes sortes d'intérêts. Vous en avez entendu parler. Michel Albert Ranti nous parlera ensuite. Mais bien sûr que, à la fois, sont pas muselés, sont pas au service d'eux, mais sont au service de beaucoup de pressions et sont défendus en règle générale par le journalisme professionnel et par les journalistes qui croient à leur devoir professionnel. Mais comme ils ne sont pas des héros, ils subissent énormément de pression et le monde dans son ensemble commence à être peuplé de deux sortes de journalistes. Journalistes professionnels sans emploi et journalistes moins professionnels. Même en comptant avec le travail héroïque, et je le pense sincèrement, des journalistes professionnels, l'ensemble du système médiatique de communication de masse est caractérisé par le contrôle des points d'entrée dans le système, dans les réseaux de communication. Il y a un contrôle. Il y a un contrôle à différents niveaux. On connaît bien dans la recherche en communication, c'est ce qu'on appelle le gatekeeping. C'est aussi ce qu'on appelle l'agenda setting, c'est-à-dire la capacité de déterminer quels sujets sont importants et pas importants. Ça, c'est l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'ils disent les médias, et ce qu'ils ne disent pas les médias. Ça, c'est le premier contrôle. C'est l'agenda setting, c'est ça. Ça, c'est important, ça, c'est pas important. Et comment on décide l'important et pas important, il y a l'audience qui est déterminante, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser à l'audience, il y a une sélection. Comme la politique est médiatique, il faut simplifier le message. On ne peut pas dire n'importe quoi. On peut dire tout ce qu'on veut dans un article d'opinion très élaboré que personne ne lit, sauf l'auteur et sa mère. Mais pour que la politique passe dans les médias, le message doit être très simple. Qu'est-ce qui est le plus simple? Une personne. Un visage humain. Un visage, une sorte de une personnalité qui inspire une certaine confiance. Parce que l'essentiel dans les rapports médiatisés des citoyens à la politique, c'est d'avoir confiance, ou en tout cas d'avoir moins méfiance que par rapport aux autres. Ce n'est pas tellement le programme, personne ne lit le programme, sauf dans les intitulés des médias, bien sûr, personne ne lit le programme politique. Mais tout le monde se rapporte aux messages qui sont véhiculés par le messager. Avant, le message est défini par le messager, par la personne qui est au fond le visage d'une certaine option politique. Et donc, même si les appareils des partis continuent à contrôler très, très concrètement la politique, de toute façon, pour se vendre, il faut vendre à travers un produit publicitaire qui est une personnalité un leader une leaderesse, quelqu'un qui puisse inspirer cette confiance. D'où la première conséquence de la politique médiatique, c'est la personnalisation de la politique dans l'ensemble du monde. Il n'y a plus de politique non personnalisée. La politique, c'est des personnes qui sont projetées comme les leaders. Et donc, si l'essentiel c'est une personne et la crédibilité d'une personne, l'arme de lutte politique essentielle c'est la destruction de la crédibilité de cette personne. Donc, ce que les Américains appellent « character assassination », qui veut dire ça. C'est liquider la crédibilité, la moralité, la personnalité de cette personne qui est présentée comme l'espoir pour les citoyens. Conséquence, l'essentiel, c'est de créer des scandales politiques. Scandales réels, fabriqués ou à moitié, mais scandales. Politique médiatique mène à la politique personnalisée, la personnalisation de la politique mène à la politique de scandale, qui est la pratique politique essentielle dans tous les pays du monde. C'est à travers des scandales, dans mon livre, il y a toute une série de crises politiques des 20 dernières années dans les principaux pays. Dans tous les cas, les crises de régime, les crises de gouvernement, les crises de leaders sont liées à des scandales. John Thompson à Cambridge a analysé très bien comment ça se fabrique, les scandales. Il y a toute une littérature sur les scandales politiques comme arme essentielle de la politique. En fait, comme la politique médiatique est très chère, parce que ça revient à une politique publicitaire qui a des tas de ressorts, il faut la financer. Et avec les ressources légales, ça ne marche pas. Donc toute politique est financée illégalement. Ça, c'est une règle générale. Tout parti politique, tout leader politique recourt à la financiation illégale. Parce que s'ils ne le font pas, ils sont les mains liées. Ils ne peuvent pas concurrencer les autres qui, par définition. Et même si on a de bonnes intentions, une fois qu'on est dans la lutte politique, il faut faire comme les autres, sinon ce n'est pas la peine. Donc, financiation illégale, et puis autour de ça, énormément d'autres choses. La vanité des hommes, qui aiment des tas de choses, et aiment surtout de parler de tout ce qu'ils font à des amis. Les femmes sont un peu plus astucieuses, elles parlent moins. Mais les hommes s'assurent qu'il n'y ait pas trop de femmes dans l'histoire. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a plein de matières premières pour les scandales dans tous les coins. Et ensuite, il y a une industrie des scandales. Il y a les intermédiaires. Les gens qui vendent de l'information à différentes personnes intéressées. Aux États-Unis, c'est institutionnalisé. Il y a un business qui s'appelle Opposition Research, OR. Opposition Research, ça veut dire trouver de l'information qui peut endommager la capacité, la crédibilité, la réputation de tel ou tel leader politique. Et les gens travaillent, c'est des gens totalement professionnels, non idéologiques. Ils travaillent pour l'un ou pour l'autre. Il n'y a pas de problème. N'importe qui paye aura l'information dont on a besoin. C'est très professionnalisé. En France, c'est moins professionnalisé, c'est plus artisanal, mais ils le font de la même manière. Donc, scandale politique comme pratique politique essentielle. Alors, quels sont les effets des scandales politiques sur la politique? Ça, on l'a étudié. Toutes ces choses-là, on les sait. On a des tas d'informations, des tas d'analyses empiriques dans l'ensemble du monde. Essentiellement, en résumé, les effets des scandales, deux remarques. D'abord, ils varient. Ce n'est pas systématique que si il y a un scandale qui attaque une personnalité politique, on détruit la carrière de cette personnalité. Non. Le cas le plus clair, c'est Clinton. Il ment. En regardant aux yeux à l'ensemble des pays dans la télévision, je ne l'ai pas fait, hein, je ne l'ai pas fait, avec le cas de Monica. Et pourtant, il termine son mandat avec la popularité plus haute d'aucun président américain à la fin de son mandat. On a étudié pourquoi. Et les gens, c'est clair, c'est, écoutez, tous les politiciens sont des menteurs par définition. Mais mon menteur est plus sympathique que les autres. Ceci dit, quand on pousse les recherches, on a trouvé d'autres choses. Oui, Clinton a terminé avec une grande popularité. Mais dans le vote de l'an 2000, entre Bush et Gore, il y a eu un déplacement de voix, pas très grand, mais important, chez les démocrates. Parmi les gens qui mettaient au premier plan de leur jugement politique la moralité de la personne. Et alors, ils ont décidé que celui qui était menteur était Clinton, donc Gore devait à peu près être menteur, et alors quelqu'un qui sûrement n'allait pas mentir, Bush, a eu un surplus de voix. Petit déplacement d'à peu près quelques 400 000 voix. Mais à Floride, il a soi-disant gagné pour 1 400 voix. C'est venu de ces déplacements. Alors, vous voyez, c'est l'effet papillon. Un déplacement de voix lié à une interaction de second degré de Clinton à Gore qui fait élire Bush, qui a présidé sur un lancement de guerre et de catastrophes économiques dans lesquelles on est toujours. Voilà un petit effet de l'immoralité de Clinton au troisième niveau. D'autre part, l'effet le plus important, c'est un effet que j'appelle de cet second ordre. C'est un effet qui, finalement, comme tous, en dernière analyse, comme tous sont atteints par les scandales, finalement, ce n'est pas que l'un gagne ou l'autre perd, c'est que tous perdent ensemble. C'est qu'il y a une méfiance totale des institutions politiques, non pas l'idéal de la démocratie, mais les personnes et les partis qui exercent la démocratie. Ce qu'ils disent les données, c'est que dans l'ensemble du monde, données des Nations Unies et du Gallup, à peu près 2/3 des citoyens du monde pensent qu'ils ne sont pas gouvernés démocratiquement, même dans les pays où il y a des élections démocratiques ou soi-disant démocratiques. En Europe, ça oscille entre 55% et 70%. Aux États-Unis, avant Obama, les choses sont plus compliquées maintenant, on peut discuter ensuite. Mais avant Obama, c'était à peu près 65% des gens qui pensaient que leurs dirigeants n'étaient pas démocratiques, qu'ils ne se sentaient pas représentés, que ce n'était pas un processus démocratique. Donc, pour simplifier, il y a toute une industrie de l'analyse de la crise de légitimité, comme on appelle. L'essentiel, on sait qu'il y a une crise de légitimité totale dans l'ensemble du monde. Dans les échelles de prestige, de réputation, si on met toutes les professions, la dernière, dans tous les pays, c'est politicien. La dernière. Et parfois, je connais beaucoup de politiciens, il y en a beaucoup d'honnêtes et beaucoup qui se dévouent à la cause de leur pays, et donc c'est quand même injuste à un certain niveau. Mais analytiquement, il faut partir de là. Même en Italie, il y a 5 ans, ils ont mis dans l'enquête, ils ont inclus les prostituées et les mafieux aussi. Et ils sont quand même fait mieux que les politiciens. Et quand les gens leur ont demandé « mais pourquoi ?», ils se sont dit « parce qu'au moins, ils disent ce qu'ils font ». Et ça vous montre, c'est une explication, par exemple, pourquoi les Italiens continuent à voter Berlusconi. Hein? Ça, c'est un effet politique concret. Ils votent Berlusconi parce qu'ils en ont depuis longtemps, ras-le-bol de l'ensemble de la classe politique. Comme Berlusconi prétend qu'il n'est pas politique, qu'il est un homme d'affaires, et qui, alors au moins c'est la comédie de l'arte. Il amuse la populace. C'est tragique pour l'Italie, en mon opinion personnelle, mais c'est très efficace parce que il y a une délégitimation totale de la classe politique. Si vous continuez comme ça en France. Alors, ça c'est la situation de la crise de légitimité liée à la politique médiatique, la politique scandale, moyen de communication de masse. Les choses sont en train de changer, d'une certaine manière, dans le rapport avec la communication, à partir de l'autocommunication de masse. Vous avez tellement parlé que ça m'évite de rentrer dans les détails de ce qu'est l'autocommunication de masse, c'est-à-dire concrètement Internet, la communication mobile, les réseaux sociaux, les social media, etc. La seule chose, je quand même, pour fixer des idées, citer rapidement quelques chiffres, sans vous fatiguer, c'est 3 minutes. D'abord, rappelez-vous, Internet est une vieille technologie. Quand on continue à parler de nouvelles technologies, Internet a été déployé pour la première fois en 1969. Ça fait 40 ans, 41 ans qu'on a Internet. C'est vrai que l'explosion d'Internet pour des raisons technologiques et légales, la privatisation d'Internet, etc., c'est dans les années 90. Enfin, les années 90, ça fait 20 ans aussi. Mais depuis lors, Internet est devenu le moyen de communication et d'information dans lequel nous vivons, point. Il n'y a plus à se poser des questions, Internet, oui, Internet, c'est comme se poser des questions sur l'électricité, bonne, mauvaise, qu'est-ce qu'on fait. On vit, non pas dans Internet ou en Internet, mais avec Internet. C'est notre base de communication et d'information. En 1996, il y avait, dans la première enquête qui a été faite, 40 millions d'usagers d'Internet dans le monde. 40 millions. En 2010, on a 1,5 milliard. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. C'est que l'explosion plus importante actuellement, c'est sur la plateforme portable, sans fil. La plateforme wireless, la plateforme portable. Mais qui est pas, l'action n'est pas portable, c'est que c'est sans fils. C'est, en 1991, donc 20 ans à peu près, il y avait 16 millions d'abonnés, des numéros, hein, pas des personnes qui l'utilisaient, des numéros d'abonnés, 16 millions. En 2010, il y a 4,8 milliards d'abonnés. Alors, comme que dans les pays en voie de développement, il y a un village ou une famille à un numéro, et comme content que les bébés n'ont pas encore leur numéro personnel, quoique actuellement l'âge d'entrée c'est 5 ans déjà, mais si on compte tout ça sur une population totale au monde des 6,8 milliards de personnes, ça veut dire que l'immense majorité de l'humanité est aujourd'hui connectée par des moyens divers à travers la plateforme mobile. Or, l'essentiel, c'est que Internet avait arrêté un peu son développement parce que depuis 2002, il n'y a plus de lignes fixes dans les pays en voie de développement. Il n'y a plus. À partir de là, la grande majorité, c'est des lignes par satellite et portable. En 2015, il y aura plus d'usagers d'Internet sans fils que d'usagers d'Internet sur ce qu'on appelle le desktop. Beaucoup plus. Donc, Internet passe à la plateforme mobile. Et alors là, l'ensemble de la planète reste connecté. Transformation aussi de l'usage d'Internet. Quelque chose que je n'ai pas vu dans la presse française, c'est pourtant fondamental, mais c'est peut-être moi qui ne regarde pas tous les jours le monde. J'y regarde, pas lis, hein, parce que c'est bien sûr par Internet. Tous les jours, je regarde le monde, mais je ne lis pas le monde. Je lis un bout de monde, un bout de New York Times, un bout de mon journal, qui est La Vanguardia de Barcelona, Bon, en juillet 1909, pour la première fois, le nombre d'usagers des réseaux sociaux a dépassé le nombre d'usagers des courriers électroniques. Alors, on pense que les courriers électroniques, non. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. 2/3 des usagers d'Internet dans le monde actuellement visitent réseaux sociaux ou blogs. 2/3 des usagers d'Internet sont dans les réseaux sociaux ou dans les blogs. Plus de la moitié des adultes aux États-Unis ont leurs données dans un réseau social. Plus de la moitié des adultes, pas des gosses. 30% des adultes et 38% des jeunes partagent du contenu online. Et 15% des adultes et 21% des jeunes font du remix systématiquement. Donc c'est une pratique complètement différente, c'est une pratique de masse. C'est une pratique de masse et sur l'ensemble du monde. Bien sûr, le pays qui a le plus grand nombre d'usagers d'Internet, c'est la Chine, qui a 350 millions d'usagers d'Internet. Facebook, à l'heure actuelle, a 400 millions d'usagers actifs. Et 50%, ils sont dans Facebook chaque jour. Et en moyenne, ont 130 amis. Plein d'amis. Qui disait qu'Internet, c'est la fin de l'amitié, les relations sociales, etc. La France, en fait, est le quatrième pays en nombre d'usagers de Facebook. 14 millions au dernier comptage. YouTube a 300 millions d'usagers et chaque jour, il y a 100 millions de vidéos qui sont visitées. Twitter a 105 millions d'usagers. Mais maintenant, est en train de se développer très vite en France, quoique les usagers de Twitter, au bout d'un certain temps, arrêtent. Ça, c'est parce qu'ils trouvent qu'ils ont besoin de beaucoup plus de fonctionnalités et ils s'arrêtent. Donc, Twitter, c'est quand même un système d'appui plutôt qu'un remplacement des autres réseaux sociaux. Mais il y a des centaines d'espaces sociaux en Internet. Tout dépend de chaque pays. En Chine, Facebook n'est pas le plus important. Il y a trois réseaux sociaux similaires au Facebook qui sont, en chinois, qui sont beaucoup plus importants. En France, la hiérarchie Facebook d'abord, ensuite Skyrock, MySpace en troisième lieu. Donc, dans tout ça, ça ne fait pas disparaître les moyens de communication de masse. Il y a une articulation croissante entre moyens de communication de masse, avec peu d'interactivité, et moyens d'autocommunication de masse, qui, les niveaux d'articulation dépendent de l'ouverture, l'intelligence et la capacité d'innovation des entreprises des médias traditionnels. Par exemple, BBC en anglais, la BBC est en train de faire une articulation très forte. Et là, il y a quelque chose qui se développe, que M. Alberanti parlera ensuite plus en détail. Simplement, j'indique que ça, c'est la base de ce qu'on appelle les citizen journalists, les journalismes citoyens, qui sont des gens qui fabriquent des informations, qui produisent des informations et qui les transmettent dans Internet, ou les journalismes citoyens d'opinion, qui c'est le blog. Chacun fait son blog, chacun fait son canal de télévision à YouTube, chacun fait son truc. La tendance qui s'observe, c'est qu'au début, les journalistes professionnels étaient plutôt réticents, et la tendance qui est observée, c'est qu'en fait, les journalismes citoyens étaient alliés des citoyens journalistes parce qu'ils s'ouvrent l'espace des informations qui ne peuvent plus être réprimées par les entreprises de médias, il faut qu'elles en parlent, mais quand il faut valider l'information, élaborer, faire un traitement professionnel de l'information, là, le journalisme professionnel a un rôle fondamental. Et donc, il y a de plus en plus un rapport plutôt de coopération et d'entraide que d'hostilité. Alors, ça, c'est l'ensemble, c'est la transformation de la communication. Comment cela, c'est la dernière partie de ce que je voulais vous présenter, comment cela s'exprime dans la transformation de la mobilisation sociale et politique. Et bien sûr, l'entrée dans la communication de masse est plus facile, ainsi que la capacité instantanée de communication et la capacité de construction autonome des réseaux. Tout ça est accru. J'ai fait une série d'études de cas, de cas et d'analyses de données, et de manière très résumée, j'ai trouvé deux grandes familles de mobilisations sociales. D'abord, les mouvements sociaux. Mouvements sociaux, je les définis dans la ligne d'Alain Touraine comme les actions collectives qui visent à changer les valeurs de la société, non pas le pouvoir, non pas la politique, les valeurs de la société. Bien sûr, des tas de choses en découlent ensuite. J'ai étudié deux grands mouvements, le mouvement pour sur le mouvement écologique contre le changement climatique Et j'ai observé comment, il y a 30 ans, on avait déjà fondamentalement les mêmes données. Ensuite, on a ajouté, ça a été vérifié, mais il y avait très peu de conscience. Moins de 5% des gens au monde avaient entendu l'histoire du changement climatique. Maintenant, et ensuite j'ai documenté comment il y a eu une mobilisation médiatique, surtout médiatique, appuyée par la communauté scientifique et par les célébrités, par les gens de Hollywood, les chanteurs, etc. Bon, cette mobilisation qui a été essentiellement médiatique et de plus en plus sur Internet a réussi une transformation totale de la conscience mondiale sur le phénomène. Aujourd'hui, 90% des gens de la planète, y compris dans les pays sous-développés, ont conscience du phénomène et 70% pensent que c'est très important et ça devrait être une priorité pour les gouvernements. Et bien sûr, il y a eu la réunion à Paris, des Nations Unies, il y a eu toute une série d'activités qui fait que les choses commencent lentement à bouger des points de vue de la conscience, parce que finalement, tout politicien qui se tient aujourd'hui doit se peindre en vert. C'est peut-être un vert un peu décoloré, mais on ne peut pas ne pas être vert. Et donc, il y a une légitimité qui commence à transpirer. Et l'autre mouvement social que j'ai étudié, c'est le mouvement qu'on appelle anti-globalisation, mais manifestement, ce n'est pas anti-globalisation, c'est le mouvement global contre la globalisation injuste. Et ce mouvement n'existerait pas sans Internet. C'est construit autour d'Internet, c'est construit dans les réseaux, les débats comme forme d'organisation des débats et d'émission de nouveaux messages. Mais bien sûr, ensuite, il atterrit dans certains endroits pour contrer dans les rues l'organisation des rencontres des pouvoirs économiques et politiques. Si vous suivez ce mouvement, vous savez qu'il y a eu une transformation profonde du mouvement, mais il n'est pas disparu. Il a disparu comme action constante centralisée. Il a disparu comme organisation. Mais c'est fragmenté dans des milliers et des milliers d'actions locales et globales qui continuent à peupler l'activisme social dans la planète. L'autre type de mobilisation qui a été facilité extraordinairement par l'autocommunication de masse, c'est ce que j'appelle l'insurgence politique. C'est-à-dire des politiques, des révoltes qui surgissent dans les marges du système institutionnel, mais pour agir sur le processus politique institutionnel. C'est pas la révolution, c'est la révolte contre et pour une autre politique dans le système politique. Et là, deux grandes familles des mouvements que j'ai étudiés. D'une part, les communautés de pratiques politiques instantanées, ce que j'appelle pratiques politiques instantanées, c'est-à-dire des communautés qui se forment à l'instant et qui ensuite disparaissent. Alors, les politiciens traditionnels disent « Alors, s'ils disparaissent, ça n'existe plus, c'est pas intéressant. » Non, ils disparaissent, mais ils laissent quelque chose. Ils changent de gouvernement, ils changent de régime, ils changent la conscience des gens. Ils changent la conscience des gens. Exemple, le plus éclatant et principale étude des cas, c'est ce qui s'est passé en Espagne en 2004 avec le mensonge du gouvernement de José María Aznar sur les attentats de Madrid qui était tout contrôlé pour les élections et qui, à partir de la mobilisation spontanée et contrôlée par téléphone mobile, en deux jours, on réussit à changer totalement le sens du vote. Et les socialistes qui étaient perdus ont gagné, non pas parce que les gens étaient pour les socialistes, mais parce que les jeunes qui se sont mobilisés ont décidé d'éjecter de la politique espagnole ce qu'ils appelaient les menteurs. Ce n'est pas populaire ou socialiste, c'était les gens qui nous ont menti sur la vie et la mort de nos personnes. Mais il y en a bien d'autres partout dans le monde. Et plus récemment, on a eu l'exemple extraordinaire d'Iran. Cette histoire que des régimes totalitaires, Internet n'est pas important. Moi, je connais un peu l'Iran. En Iran, il y a à peu près 700 000 usagers d'Internet. Il y a plus de 300 000 blogs. 40% c'est des femmes qui disent dans les blogs des choses qu'ils ne peuvent pas dire à la maison. Il y a un mouvement fort d'Internet en Iran. Et ce mouvement d'Internet, avec Twitter et d'autres, ont réussi à mobiliser la population, les jeunes surtout. Les jeunes, c'est la majorité de la population. Les jeunes iraniens contre un régime aussi dictatorial qu'Ahmadinejad. Bien sûr, ils sont tués des gens, ils sont emprisonnés des gens, ils ont cassé la révolte pour commencer. Mais vous savez, ça commence toujours comme ça. Une fois que les gens ont compris qu'ils peuvent se mobiliser, qu'ils peuvent changer, il y aura des tortures, il y aura du sang, il y aura des tas de choses. Mais les débuts d'une transformation mentale et donc pratique en Iran a commencé. Et l'autre, c'est l'intervention dans le système politique formel. À plusieurs niveaux, je ne montre que deux choses très rapides. D'une part, ce que je pense que Michaud parlait tout à l'heure, la surveillance constante de la classe politique. Toute personne avec un portable, c'est-à-dire millions et des millions de gens, ils peuvent trouver un leader politique faisant quelque chose qu'il ou elle ne devrait pas faire. Et 5 minutes, et tu es dans YouTube, et à partir de là, les choses commencent. Il y a plusieurs cas importants dans les dernières années aux États-Unis. Ça a changé le vote du Sénat à un moment. Un grand sénateur qui a été candidat présidentiel du Parti républicain a été éjecté à cause d'une gaffe qu'il a fait et qui a été enregistrée sur YouTube. D'une certaine manière, je dirais que les petits frères confrontent Big Brother. Il y a des tas de gens prêts à dénoncer tout ce qui se passe. Et les méchants ont dû passer à la clandestinité, absolument. Avant, c'était les révolutionnaires. Maintenant, c'est les gens qui sont au pouvoir qui doivent mener des vies clandestines. La deuxième chose, c'est les campagnes politiques et la mobilisation autonome des campagnes politiques. J'étudie à fond la campagne d'Obama. Tout le monde est d'accord maintenant que Internet était absolument essentiel dans la victoire d'Obama, qu'il est totalement improbable, totalement improbable. Hillary Clinton l'aurait dû détruire en 3 semaines, et d'ailleurs c'est ce qu'elle pensait. Et sinon, ensuite, les républicains, non. Obama était capable de générer un mouvement, un véritable mouvement, que j'appelle d'insurgence politique, qui a complètement transformé la politique américaine. Mais attention, ce n'est pas Internet, ce n'est pas la technologie. C'est la volonté délibérée de donner une grande autonomie aux gens qui construisent leur propre politique, leur propre campagne, leur propre organisation. Et pour ça, Internet est absolument essentiel. On ne peut pas utiliser Internet comme la télévision. Internet veut dire autonomie. Si on n'est pas prêt à faire l'autonomie, il vaut mieux ne pas utiliser Internet parce que ça se retournera contre ceux qui lancent les gens sur l'Internet. Et d'ailleurs, tout ça c'est analytique. Il n'y a pas de valeur pour ou contre dans mon analyse. Parce que bien sûr, une fois qu'Obama est arrivé au pouvoir, il s'est trouvé des tas de limites, il a trouvé des tas d'oppositions, et la droite s'est mobilisée. Et comment s'est mobilisée la droite? Sur Internet, utilisant exactement les mêmes tactiques qu'Obama, parce qu'aussi ils ont compris qu'il fallait libérer l'énergie politique de la droite. C'est comme ça que Scott Brown a enlevé le siège de Kennedy au Massachusetts. C'est comme ça que le Tea Party Movement s'est développé. Et donc, ce qui est clair, c'est que Internet ne va pas être mieux ou pire que la politique et la société qui utilise Internet. Donc Internet n'est pas par définition de gauche ou de droite, et démocratique. Et la démocratie, ça peut être de gauche ou de droite, ça dépend comment les gens pensent. Et en ce sens, ceci dit, l'idée que les gens ont plus d'espace pour intervenir, cette idée-là est profondément démocratique, mais la traduction politique peut être une traduction dans différentes sortes d'options politiques. Et je termine. Je termine par la réflexion au niveau un peu plus analytique que Kip Michaud avait commencé tout à l'heure, sur l'espace public. Parce que vraiment, ce qui est en train de se transformer, c'est l'espace public. C'est transformé déjà. L'espace public est fondamental dans la démocratie parce que c'est l'espace de délibération de la société pour construire une décision collective qui est ensuite institutionnalisée suivant des procédures réglées. Dans la société industrielle et dans l'État-nation du XXe siècle, cet espace, l'espace public, s'est constitué fondamentalement autour des institutions démocratiques de l'État-nation et de la société civile organisée autour de cet État-nation. Le double mouvement qui s'est passé pendant les dernières 20 ans, c'est-à-dire d'un côté ce que vous appelez la mondialisation et que tout le monde appelle la globalisation, la globalisation a enlevé les rapports instrumentaux qui étaient centrés dans l'État-nation, et en même temps il y a un autre mouvement parallèle et contradictoire qui est l'identification, c'est-à-dire les gens ont été contre la perte des contrôles à travers les institutions politiques sur la globalisation, se sont retranchés dans leurs identités fondamentales, dans le local, dans la religion, dans la nation telle qu'ils l'entendaient, pas l'État-nation, mais la nation contre l'État-nation. Et donc, il y a eu un double mouvement d'identification des citoyens, d'identification des gens qui se voient plus comme dans leur identité plutôt que comme citoyens. Parce que le concept des citoyens a été vidé de sens dans le processus de globalisation qui enlève la capacité pratique de l'État-nation d'intervenir dans le contrôle de la globalisation et que donc s'est reconstruit, l'État-nation n'est pas disparu du tout, s'est reconstruit en ce que j'appelle l'État réseau. Par exemple, l'Union européenne, l'État réseau. Un réseau d'État-nation qui survit comme structure institutionnelle, mais que en même temps, ne sont plus d'États-nations souverains. Sont des États, sont des institutions politiques, mais qui s'articulent en réseau pour pouvoir ensemble agir sur la globalisation. Mais dans la mesure où ils font ça, ils s'éloignent de la capacité directe de représentation démocratique au niveau de leur espace dans l'État-nation démocratique. Et donc, la société civile telle qu'elle existait, a perdu du poids parce qu'elle était essentiellement organisée autour de l'État-nation et du pouvoir de l'État-nation. Que ce soit syndicalisme, que ce soit association patronale, que ce soit l'ensemble des formes de la société civile, c'était des formes de rapport à l'État. Dans la mesure où l'État-nation cesse, dans une grande mesure, d'être une référence, c'est un autre espace public qui se constitue. C'est tout simplement l'espace de la communication. L'espace public est passé des institutions à l'espace de la communication. C'est dans l'espace de la communication où il y a la délibération, les conflits, les batailles sur la pensée des gens, et c'est là que, d'une certaine manière, se joue le sort de la démocratie et le sort de la capacité de changement social. Et donc, la préservation de la liberté de presse et la préservation de la liberté d'Internet devient élément essentiel de la démocratie. Parce que sans cela, on ne pourra pas reconstruire les formes démocratiques nouvelles qui n'existent pas encore dans l'espace de la communication. D'une certaine manière, je dirais que ces débats sont d'autant plus importants qu'ils se placent dans un contexte actuel très dramatique, qui combine une crise de légitimité politique et une crise économique fondamentale et une crise de l'État-providence qui n'est plus capable de soutenir ses engagements. Et donc, l'Internet, dans ces conditions, peut devenir un instrument de mobilisation populiste, démagogique, xénophobe, mais en même temps, peut aussi être l'espace d'intervention des projets alternatifs, des projets qui ne se limitent pas à répéter la même histoire d'institutions démocratiques qui ont été vidées de sens à l'heure actuelle. Alors peut-être que la France, bien sûr avec un niveau culturel supérieur à beaucoup d'autres pays, peut faire une nouvelle révolution dans cette place-là et réinventer la démocratie à l'ère de l'autocommunication des masses. Et donc peut-être que vous pouvez, on pouvait ici commencer une nouvelle forme de démocratie qui commence par de nouveaux principes en continuité historique avec les principes de la Révolution française. Liberté pour tous, égalité entre hommes et femmes, fraternité, même avec les Arabes, et surtout interactivité entre tous ces beaux mondes. Merci beaucoup.
Merci, merci Emmanuel. Et donc, on va poursuivre maintenant avec Michel Alberganti. Il est journaliste, producteur sur Radio France, chef d'entreprise. Au départ, formation d'ingénieur, journaliste à partir de 1983. Rejoint en 1995 Le Monde en tant que spécialiste des nouvelles technologies. Et il nous a appris beaucoup de choses à nous qui suivions ses chroniques. En février 2009, il quitte Le Monde, mais Le Monde, le journal. En mars 2009, il n'entre pas dans la clandestinité virtuelle. Et en mars 2009, il crée l'entreprise Vidéoscopie Production, spécialisée dans la réalisation de vidéos destinées aux sites Internet. Et vous nous avez parlé de tous journalistes, point d'interrogation. À vous.
Bonsoir à tous. Oui, je voudrais d'abord vous remercier, Michaud, et ainsi que tous les organisateurs de ces premiers entretiens du Jeu de Paume pour m'avoir invité à y participer. Je suis très impressionné, comme tous les orateurs, je pense, par cette salle et par la qualité des intervenants. Et il me revient de conclure cette deuxième journée, il est déjà tard, après le brillant exposé de Manuel Castells, mais ce qui est encore plus lourd comme tâche à assumer, c'est que je suis finalement le seul journaliste de ces trois jours de réunion en raison de l'absence de Laurent Geoffrin. Et sans vouloir évidemment prétendre représenter cette profession et en quelque manière la défendre, j'aurais quand même réagir à un propos qu'a tenu Luc Ferry tout à l'heure. Alors Luc Ferry, que j'apprécie particulièrement en tant que philosophe, puisque j'ai encore en mémoire des écrits très anciens de lui-même dans un livre consacré à l'écologie et qui reste tout à fait d'actualité sur le débat entre de la place de l'homme vis-à-vis de la nature. En revanche, quand il parle de scoopisme, ce qu'il a dénoncé tout à l'heure, je dois quand même réagir par rapport à la définition qu'il a donnée du scoopisme et rappeler que le journaliste recherche le scoop et que c'est une de ses missions, un des moteurs essentiels de cette profession. C'est un peu le privé de cette recherche, ce serait un peu comme priver une équipe de foot de l'envie de marquer des buts ou de gagner des matchs. Et on voit que l'expérience d'ailleurs est en train d'être faite en ce moment et que visiblement ça ne satisfait personne. Donc je ne crois pas qu'on pourrait l'appliquer également au journalisme. Ensuite, l'exemple qu'il donne quand il parle de ses erreurs multiples et absolument hallucinantes dans son projet, dans son portrait qui a été paru dans Libération, ça n'est pas du scoopisme, ça c'est simplement une incompétence incroyable de la personne qui a écrit le portrait et de toute la hiérarchie du journal qui a relu ces lignes et qui aurait dû évidemment les corriger. Je vois aucune trace de scoopisme en la matière. Il est évident que quand il parle de ces excès de la recherche de scoop, donc comme tout excès, eh bien évidemment, il peut être condamnable. Donc j'en viens, après cette petite aparté corporatiste, à l'essentiel de ce que je voulais aborder. Donc tous journalistes, effectivement. Donc je vais aborder ce que j'ai pu vivre par le hasard de l'histoire au cours des 25 dernières années, puisque c'est la durée pendant laquelle j'ai pratiqué cette profession. Et il se trouve qu'à partir de 95, j'ai vécu l'arrivée massive d'Internet. Manuel Castells rappelait les dates, mais effectivement en France en tout cas, c'est vraiment à partir de 95 qu'Internet est entré dans les mœurs, dans les maisons et dans les rédactions, puisque c'est l'année dans laquelle on a installé le premier modem à l'intérieur de la rédaction du Monde et qu'on a fini par se connecter, à l'époque d'ailleurs dans le doute général de tous ceux qui nous entouraient, à ce réseau mondial. Alors je voudrais juste aborder trois points. Cette révolution Internet dont je viens de parler, la crise de la presse écrite que finalement elle engendre, et on verra pourquoi, et également donc l'avenir du journalisme dans ce contexte. Et vous verrez que ça n'est pas un problème purement corporatiste, c'est que ça concerne beaucoup plus de monde que les journalistes eux-mêmes. Alors ces trois questions, elles sont fortement liées à la démocratie, puisque les journalistes ont toujours, depuis leur création, depuis leur arrivée dans le jeu, assuré un rôle assez essentiel de communication de l'information entre vis-à-vis du public et permettant ainsi aux citoyens de forger leur opinion personnelle à travers toutes ces contributions, ces informations, ces points de vue, et tout ça sur l'ensemble des sujets de société, y compris les choix politiques. Alors, si j'ai intitulé mon intervention « Tous journalistes » avec un point d'interrogation, c'est parce que c'est cette question du rôle du journaliste qui est mise en cause aujourd'hui par le développement d'Internet. Et la première réponse qui vient à l'esprit, c'est qu'évidemment, tout le monde ne peut pas être journaliste. Manuel Castells a rappelé très, très brillamment la façon dont on peut définir la différence entre un contributeur à l'information et puis un professionnel qui va l'analyser, la recouper et la mettre en forme d'une façon que tout le monde ne peut pas réaliser. Mais Internet change quand même profondément la donne et on pourrait faire un petit retour en arrière, un petit point historique pour se rappeler des porteurs d'eau. Alors vous me direz qu'il n'y a pas beaucoup de rapports. En fait, si, des porteurs d'eau, on en comptait 20 000 à Paris au XVIIIe siècle. Et c'est le baron Haussmann et l'ingénieur Eugène Bergrand, pour les historiens, qui ont eu raison de cette profession lorsqu'à partir de 1883, donc ça n'est pas hier, ils réalisèrent des travaux gigantesques pour créer un réseau d'alimentation en eau. Et en 1910, donc il y a à peine 100 ans, il n'existait plus de porteurs d'eau à Paris. Il suffisait d'ouvrir le robinet pour profiter de l'eau courante à tous les étages. Or, l'eau courante à tous les étages, aujourd'hui, il y en a une autre, c'est Internet. Il y a une seule prise, on se branche sur cette prise et Internet est accessible instantanément. Et qu'est-ce qui se passe quand on est branché à Internet, entre autres services, parce qu'il y en a bien d'autres? Eh bien, on peut recevoir de l'information venant du monde entier, de l'information venant de tous les journaux existants, mais également, et de plus en plus, de différents sites. Alors, si on continuait l'analogie avec l'eau, on pourrait dire que, au lieu d'avoir un seul fournisseur d'eau, comme c'est le cas quand on est abonné à une entreprise qui fait cette distribution, avec Internet c'est différent car il y a de multiples sources. Alors ça c'est la richesse d'Internet. En même temps, la qualité de l'eau, elle est relativement garantie par le fournisseur d'eau. C'est pas le cas de l'information qui provient de ces différentes sources. Donc ça pose un petit problème. Mais la différence fondamentale avec la période précédente, c'est que tout le monde, tout un chacun, tous parmi vous probablement dans cette salle, vous pouvez avoir accès non seulement à ce que la presse écrite produit et qui est reproduit en dehors du papier également sur le web, mais également à ce que produisent des millions d'internautes. Et cette production des internautes, l'autocommunication dont parlait Manuel Castells, ça a transformé les lecteurs passifs de la presse écrite en acteurs de cette information en ligne. Ce sont eux qui commentent maintenant les informations publiées dans la presse, et souvent avec beaucoup de, disons, d'acuité et parfois de vivacité, voire de verdeur, et qui met, par exemple, les journalistes professionnels dans une situation tout à fait nouvelle. Auparavant, on n'avait aucune idée de la façon dont réagissaient les lecteurs qui lisaient Le Monde le soir, chez eux, ou l'après-midi. Maintenant, quand ce même article qui paraît dans le journal papier est publié en ligne, et d'ailleurs, Yves Michaud a parlé des réactions à son blog tout à l'heure, eh bien, c'est exactement la même chose pour tous les articles. Tous les articles sont traités de la même façon. Chaque lecteur peut réagir instantanément. Il peut aller bien plus loin. On l'a vu avec les blogs qui se créent et qui se multiplient aujourd'hui. Et on pourrait faire un petit parallèle, là encore quelques chiffres. En 2007, il y avait 37 000 personnes qui détenaient la carte de presse en France, en 2007. En 2007, aujourd'hui, je pense qu'il en reste un petit peu moins. Mais selon les derniers recensements pour ce qui concerne Internet, on en est à 35 millions d'internautes en France. Et 30 millions accèdent à Internet à haut débit, ce qui est considérable et qui met d'ailleurs la France en assez bonne position. Mais si on fait le rapport brut entre ces deux chiffres, on peut constater que la population des journalistes, elle représente 0,1% de la population des internautes. Alors bien sûr, tous les internautes ne sont pas des producteurs d'informations, ils ne sont pas tous blogueurs d'ailleurs. Mais en 2009, on recensait déjà 9 millions de blogs en France, dont 2,5 millions étaient actifs, ce qui mettait d'ailleurs la France, dans ce cas-là, en première position mondiale en termes de rapport entre le nombre de blogs et le nombre d'internautes. Et donc ces 2,5 millions de blogueurs actifs, eh bien ça représente 70 fois le nombre de journalistes qu'il y a en France. Alors évidemment, ces chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de prudence et pas faire de corrélation directe. Seulement, c'est un phénomène qui est en plein développement, c'est pas du tout un phénomène qui est aujourd'hui arrivé à sa maturité ou à saturation. La production à travers les blogs, c'est quelque chose qui va falloir, avec laquelle il va falloir compter, et on y les journaux déjà l'ont détecté. On voit que les sites des journaux, des grands journaux, créent des blogs eux-mêmes. On voit que les journalistes de ces sites, sur ces sites, sont les journalistes du journal papier. Il y a un recouvrement très 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 fort. Et on voit que, au-delà de la profession de journaliste, il y a toute une population qui adhèrent au blog et qui sont des gens qui proviennent vraiment de tas d'horizons différents. On y trouve des écrivains, des économistes, des avocats, des financiers, des politiques, des hommes politiques, tous les hommes politiques. On l'a vu avec la campagne d'Obama que rappelait Manuel Castells. Tous les hommes politiques maintenant ne peuvent pas ne pas être sur Internet. Et on y trouve également des retraités, par exemple, et probablement que cette population va se développer également fortement au cours des prochaines années, sachant que le nombre de retraités rompus à la pratique d'Internet est déjà fort aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu dire à une époque en parlant de cette fracture numérique entre les jeunes et les vieux. Il semblerait que les personnes âgées, au contraire, se soient massivement mis à Internet, et les prochaines personnes âgées seront les jeunes d'aujourd'hui qui, eux, sont nés avec Internet et n'auront donc aucune difficulté à le maîtriser. Et cette population aura beaucoup plus de temps que les actifs, population qui, avec la réforme des retraites, on voit bien la difficulté que pose la gestion de cette population. Mais en revanche, c'est une population qui a énormément de temps et qui a beaucoup d'expérience. Ce sont des personnes, pour la plupart, donc, qui ont achevé leur vie professionnelle, qui ont une expérience très importante et qui peuvent, à travers les blogs, faire profiter toute la population qui peut s'intéresser au sujet qu'ils traitent de leur fameuse expérience. Donc là, on en est à quelque chose qui a un impact direct sur la démocratie. Ces médias, ces journalistes à l'intérieur de médias qui étaient en position de monopole dans la transmission de l'information entre des sources, qui pouvaient être n'importe quel événement, n'importe quelle entreprise, n'importe quel homme politique, et les lecteurs, eh bien, ce monopole est en train de disparaître, au sens où n'importe qui aujourd'hui peut transmettre un petit filet d'informations, ne serait-ce que l'information dont il est témoin lui-même. Et on voit, et d'ailleurs aux États-Unis, le phénomène dont parlait Manuel Calces, c'est-à-dire cet espionnage des hommes politiques, a pris un nom, celui de la sous-veillance, et c'est un véritable mouvement qui d'ailleurs a un rapport, pas vraiment avec mon sujet, mais rapport avec la surveillance qu'exercent de plus en plus les autorités sur la population, et un équilibre est en train de se créer, et là aussi c'est un enjeu de démocratie important, un équilibre est en train de se créer entre la surveillance des autorités et la sous-veillance que peut exercer le public sur les hommes politiques ou les dirigeants. Et Internet va jouer un rôle très important. On le voit aujourd'hui sur les vidéos. C'est grâce à Internet que ces vidéos se répandent à une vitesse très très rapide. Il y a aussi dans cette population qui contribue volontairement, bénévolement à informer l'ensemble des citoyens, un phénomène qui ne peut pas être oublié. C'est celui de probablement ce qui est le plus miraculeux dans l'histoire d'Internet aujourd'hui, c'est la création de Wikipédia, cette encyclopédie en ligne, à laquelle personne ne croyait au départ. Il y avait un extraordinaire mépris pour la possibilité de la réalisation, de l'émergence de quelque chose qui serait issu d'une utopie totale, c'est-à-dire l'utopie de l'intelligence collective capable de créer quelque chose d'exploitable par un grand nombre. Et on se rend compte aujourd'hui que les critiques de Wikipédia sont plutôt en chute libre, que les gens, même des fois sans oser trop l'avouer en public, l'utilisent très très couramment pour préparer des conférences. Les journalistes ont été, évidemment, sont partie prenante dans ces utilisateurs de Wikipédia, puisque c'est une source d'information très importante. Et on se rend compte donc qu'un phénomène tout à fait nouveau est arrivé. Aujourd'hui, cette contribution d'anonymes, mais qui ont une qualité et qui ont une pertinence dans leurs propos, eh bien, cette association spontanée, un petit peu, peut créer quelque chose comme Wikipédia. La démonstration est faite, il suffisait d'une fois. Et ça provoque des bouleversements assez importants, parce que beaucoup de professions se sentent relativement menacées par l'émergence de cette contribution spontanée. Il y a peu de temps, il y a à peine un an, l'un de mes invités à Science Publique, donc l'émission que j'anime sur France Culture, hein, tous les vendredis à 14h, eh bien, cet invité exprimait une crainte qui révèle ce potentiel. Alors, lui, il travaillait pas du tout dans l'information, dans la presse. Il travaillait dans la fabrication de cartes très détaillées, qu'il vend, j'espère encore pour lui, très cher, par exemple, aux militaires, donc il pouvait cartographier grâce aux images satellites, il produisait des cartes. Eh bien, sa crainte, elle venait tout simplement d'un nouveau service qui venait d'apparaître sur Internet et qui s'appelle Google Maps Maker. Et c'est le Maker qui fait toute la différence. Alors, c'est un service très simple qui permet à tout internaute de modifier les cartes que Google Maps donc fournit, et qui est aujourd'hui, service qui est aujourd'hui disponible dans 174 pays. Alors pour ce professionnel qui vend très cher ce genre de travail, effectivement, à terme, il se projette dans l'hypothèse que les cartes que lui fabrique, eh bien, seront spontanément créées finalement par cette contribution de millions d'internautes qui, effectivement, sont les mieux placés pour savoir ce qui a changé dans leur village, changé le parcours d'une route, création d'un nouvel espace. Eh bien, ça, ces modifications qui, auparavant, nécessitaient une nouvelle vue par satellite, une transcription par carte, pourra être spontanément réalisée par ces blogueurs de Google Maps. Alors, dire que les... Évidemment, ces personnes-là ne peuvent pas être assimilées à des journalistes. Pourtant, ce qui est sûr, c'est qu'ils produisent de l'information et que tous les blogs vont être de plus en plus producteurs de cette information. Ça, c'est la nouvelle situation, le nouveau paysage dans lequel la presse, elle, continue à exister. Du moins, elle essaie. Et donc, c'est la deuxième point que je voulais aborder, c'est cette crise de la presse écrite. Alors, la presse, elle date pourtant d'il y a très longtemps, hein, il faut remonter à 1631 pour retrouver la trace de la Gazette, la fameuse Gazette qui a été publiée par Théophraste Renaudot, donc notre ancêtre à tous, journaliste. Et 1777, donc encore avant les événements qui se sont produits dans cette salle, eh bien, on voyait le lancement du premier quotidien français qui s'appelait alors le Journal de Paris. Pour revenir à aujourd'hui, la semaine prochaine, le journal Le Monde va être acheté par l'un des deux candidats qui sont en lice pour une augmentation de capital. C'est un événement vraiment majeur dans l'histoire de la presse française, puisqu'elle mettra, cet événement mettra un terme, un point final à l'indépendance du dernier journal qui appartenait à ses rédacteurs, puisque l'actionnaire majoritaire était la Société des rédacteurs. Et le nouveau propriétaire va être donc un agglomérat d'hommes d'affaires, d'industriels, parmi lesquels on trouve France Télécom, Orange. Et si moi, quand j'étais au Monde, il y a encore peu de temps, on m'avait dit que France Télécom, Orange allait être l'un des propriétaires du Monde, je pense que je n'aurais pas voulu le croire, et c'était pourtant il y a très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui a permis d'en arriver là? C'est toute la question, parce que le Monde, c'est la dernière étape d'un long processus qui a vu le rachat de Libération, effectivement, et donc la perte d'indépendance de tous les quotidiens français. Aujourd'hui, c'est la situation actuelle. Alors, je crois que vraiment, la réponse, elle tient dans ce mot. La réponse essentielle, c'est pas le seul facteur, mais c'est vraiment Internet qui a changé complètement la donne. Et les conséquences d'Internet. Alors, quand je suis entré au Monde en 95, on se posait pas du tout ce genre de questions. C'est plusieurs événements qui se sont produits. Petit à petit, nous, journalistes, on a utilisé Internet comme une source d'information formidable. Quand les blogueurs sont arrivés, donc, comme je disais, on les a intégrés sur le site du monde.fr qui a été créé dès 1999 et qui, déjà à l'époque, reflétait un petit malaise entre la rédaction du journal papier et le site Internet, puisque ce site Internet a été créé d'abord pas comme une filiale à 100% du Monde, mais une filiale avec Lagardère, et ensuite elle a été installée dans des locaux différents, et ce sont deux équipes complètement distinctes qui se sont juxtaposées jusqu'à il y a très peu de temps avec le rapatriement dans les locaux du Monde du site lui-même. Et ce site aussi spontanément s'est ouvert à la contribution de contributeurs extérieurs, des blogueurs, mais également de nouveaux arrivants qui étaient également présents dans le journal papier, qu'on a appelé des éditorialistes associés, et qui étaient des économistes, des juristes, des hommes politiques, tous évidemment reconnus pour la pertinence de leurs analyses, mais aucun n'était journaliste. Et peu à peu, je pense que ça a contribué à ce que une décrédibilisation des journalistes qui déjà était à l'œuvre dans l'opinion publique, eh bien, ça s'aggrave. Alors, il y a un autre phénomène qui est très important, ça a été la gratuité de l'information qu'Internet a amorcée et qui, paradoxalement, a été renforcée, elle, par les journaux papiers, puisque ce sont des journaux papiers qui ensuite sont parus, et vous les connaissez tous, vous les voyez à la sortie des stations de métro. Et alors la presse traditionnelle s'est évidemment offusquée, elle a crié au scandale, dans la mesure où il était, de son point de vue, anormal qu'une information de qualité puisse être gratuite, qu'il fallait forcément la payer. Donc elle tenait d'ailleurs ce discours tout en diffusant gratuitement sur ses sites toute l'information qui était vendue le jour même dans ces journaux papier. Et au-delà de ce petit hiatus, eh bien, elle s'est associée, pour certains titres en tout cas, avec des journaux gratuits pour tirer profit de cette nouvelle manne, dans la mesure où ses difficultés économiques ne lui laissaient pas grand choix. Alors l'idée de cette information gratuite, c'est pas non plus Internet qui l'a créée, je pense qu'il l'a simplement renforcée. L'information, elle est déjà gratuite à la radio et à la télévision aussi, du moins on ne paye pas chaque journal télévisé ou chaque flash de radio. Alors la situation financière de la presse, elle explique également les difficultés dans lesquelles elle se trouve, puisqu'elle accélère, elle accentue les pertes de qualité de la presse et du coup de sa crédibilité. Cette crédibilité, en 2009, déjà, il y avait 61% des Français qui estimaient que les journalistes ne sont pas indépendants face aux pressions du pouvoir et de l'argent. Alors comment s'étonner de cette situation, dans la mesure où les organes de presse comme Le Monde, mais tous les journaux de la presse écrite, ont de moins en moins de moyens financiers, c'est-à-dire qu'au lieu, pour restaurer cette confiance et ce potentiel, eh bien, au lieu de pouvoir développer leurs titres, renforcer la qualité de leurs articles, ils se retrouvent dans une situation totalement inverse, avec une succession de plans sociaux et donc un potentiel amoindri, ce qui ne fait que renforcer le cercle vicieux. Alors, il n'y a pas, j'ai parlé des blogueurs, j'ai parlé de cette concurrence des gratuits, il y a un autre phénomène qui est au moins aussi important et peut-être qui va se révéler encore plus important dans l'avenir. Le phénomène, c'est que les sites Internet, chaque site Internet, d'une entreprise, d'une institution, eh bien, chacun de ces sites devient des médias à part entière d'une certaine façon, dans la mesure où l'information qu'il publie est directement destinée à un public, c'est-à-dire vous. Et on voit ce phénomène se développer de plus en plus. Je prendrai juste un exemple, il y en a déjà beaucoup, mais prenons l'exemple d'Universcience. Universcience, vous le savez peut-être, c'est la fusion récente du Palais des Découvertes et de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Eh bien, Universcience a créé en janvier de cette année, janvier 2010, une télévision sur Internet qui produit pas moins de 15 vidéos originales par semaine. C'est un début, mais il se trouve que là, on a une institution qui devient une chaîne de télé, évidemment pas sur les réseaux câblés aujourd'hui, sur Internet uniquement, mais qui produit ce que la télé, justement, ne produit pas, ce que les journaux ne sont plus capables de traiter, c'est-à-dire des vidéos sur des sujets scientifiques. Et on voit que le CNRS a produit également une série de vidéos sur la biodiversité. Je pourrais continuer les exemples. En fait, Internet se peuple très, très rapidement de productions de ce type qui naissent des sites et qui s'adressent directement aux internautes, c'est-à-dire aux citoyens. Auparavant, les premiers sites Internet étaient souvent destinés à la presse, justement. C'est-à-dire, c'était des services qui facilitaient l'accès aux journalistes de l'information qu'ils contenaient. Aujourd'hui, ça a changé, et c'est pour ça que je parle de véritables médias, au sens où ces sites s'adressent directement à un public. Alors, ce paysage donc de l'information change considérablement, et évidemment le public continue à consulter les sites en ligne de journaux, hein, Le Monde, Libération, Figaro. Il y a aussi des titres qui sont apparus récemment et qui sont purement Internet, Rue 89, Mediapart ou Slate.fr. Et ce qui se passe aussi, c'est que les internautes ne vont pas forcément sur Le Monde. On voit que le vrai portail d'Internet aujourd'hui, c'est Google. Et Google, quand on fait une requête, alors j'ai fait une petite expérience qui effectivement n'a rien à voir avec l'ampleur des expériences empiriques de Manuel Castells, mais j'ai fait l'expérience pour voir ce que l'on récupère comme information, comme liste de sites quand on tape quelque chose sur Google. Alors j'ai fait l'expérience, par exemple, j'en ai fait deux très rapides, une sur la réforme des retraites. Donc dans ce cas, La réforme des retraites, c'est un sujet d'actualité et il est normal que les médias soient quand même particulièrement privilégiés. Ce sont eux qui, en première ligne, doivent refléter cette actualité. Alors, on voit que si on tape donc la réforme des retraites sur Google, eh bien, on voit que les résultats mettent en tête effectivement des articles de la rubrique actualité de Google. Donc, on y retrouve TF1, Le Point ou Le Figaro. Mais juste après donc cette réponse, on trouve le site du gouvernement, c'est-à-dire le site du gouvernement sur la réforme des retraites. Donc, à ce niveau-là, il y a pratiquement égalité entre un site purement institutionnel, qui est le site du gouvernement, et les sites de la presse. Alors, on vient ensuite, effectivement, des articles, de la presse écrite, mais on voit également que s'intercale l'article de Wikipédia sur la loi Fillon, donc là encore, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la presse, et puis un lien sur la documentation française, et encore deux autres liens sur des sites du gouvernement. Donc, trois liens sur le site du gouvernement sur 10 résultats, puisque c'est la première page de Google. Et la page se termine également par trois blogs qui traitent du sujet. On voit bien, c'est sur cet exemple que j'ai vraiment pris au hasard, j'ai pas fait plusieurs thèses, j'ai pris la première idée qui me venait à l'esprit, que 50% des liens proposés par la réponse de Google renvoient à des sites d'organes de presse traditionnels, tous les autres sont des sites différents. Si on fait une autre requête, ça sera la dernière, avec par exemple le réchauffement climatique. Le résultat, là aussi, est très significatif. Le premier lien qui est proposé par Google, là, c'est plus un journal. Alors, peut-être parce que l'actualité sur le réchauffement climatique est un petit peu plus ancienne. Mais enfin, elle n'est pas très ancienne. Le premier résultat, c'est Wikipédia. Alors, il est suivi par celui du portail scientifique du gouvernement. Donc, je ne sais pas quelle est la technique du gouvernement pour que ces sites sortent aussi bien sur Google, mais visiblement, c'est efficace. Alors ensuite, il y a une sélection d'articles d'actualité. Là, on y trouve des articles de 20 minutes, RTL ou Ouest-France. Ensuite, les sites de la Terre Sacrée, la documentation française, Canal U, qui apparaît dans cette première page, la vidéothèque donc, de l'enseignement supérieur, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, une page sur les dossiers du net, le WWF, le World Wide Fund, donc Futura Science et Greenpeace. Donc ce sont les deux tiers. Et ensuite, oui, j'ai oublié, deux liens avec des vidéos sur YouTube. Alors dans ce cas, les sites traditionnels sont extrêmement minoritaire. Et si on considère que Google est cet instrument de plus en plus utilisé pour s'informer, parce que d'une certaine façon, beaucoup d'internautes ont pour page de garde ce moteur de recherche, eh bien les résultats qu'il donne ne laissent plus une place, déjà aujourd'hui, très importante à la presse traditionnelle. C'est une raison de s'inquiéter. Et d'autant que pour revenir à notre analogie avec la distribution d'eau, il faut quand même remarquer aujourd'hui que l'information, elle circule vraiment de la même façon. Et il suffit donc, par exemple, là, d'ouvrir le robinet Google qui a cette fonction et qui est utilisée comme telle par la plupart des internautes. Alors, que la presse soit en crise dans une telle situation, c'est pas vraiment étonnant et on peut même s'interroger à la lumière de ces deux petites expériences vraiment très simples que vous pouvez tous reproduire, même s'il faut faire, tout cela change assez vite. Donc il faut s'interroger sur le rôle des journalistes dans la société, dans ce nouveau contexte. Pour cette profession, il est évident que la question essentielle, c'est celle de sa valeur ajoutée. Et alors qu'auparavant, eh bien, la valeur ajoutée était très simple, il suffisait d'apporter l'information au lecteur. On voit qu'aujourd'hui, la plupart des lecteurs sont déjà informés quand les journaux paraissent et quand ils se présentent devant un kiosque à journaux. Alors, il faut arriver dans ce contexte-là à les convaincre de dépenser 1,40€, presque 10 francs pour ceux qui se souviennent, pour acheter un journal. Alors, c'est toute la question et aucun quotidien pour l'instant n'a trouvé la réponse, comme en témoigne la baisse régulière de leur diffusion d'environ 5% par an au cours des 10 dernières années. Eh bien, ces 10 dernières années, c'est justement celle de l'explosion d'Internet, comme je le disais, à partir de 1995. Alors, l'avenir d'Internet, ça, c'est effectivement une question, mais celle du journalisme à l'intérieur de ce contexte, elle est simple et brutale. On revient au titre de mon intervention. Est-ce que les citoyens peuvent remplacer les journalistes et faire circuler l'information finalement directement entre eux, puisqu'ils se transforment chacun se transformant en médias, les médias donc étant à la fois les blogueurs et les sites internet. Alors aujourd'hui, la réponse, elle est non, parce que l'information qui est diffusée par ces moyens-là n'a pas la qualité de celle que produisent les journalistes. Mais il faut se rappeler ce qu'était Internet avant Google. Avant Google, Internet, c'était une masse informe d'informations. Tout le monde pensait qu'il était impossible et improbable qu'un jour on puisse trouver des réponses aux questions qu'on se posait. Il a suffi de l'apparition de Google pour que le paysage change complètement et que d'un seul coup on se dise « mais oui, Internet, ça permet de trouver les réponses aux questions qu'on se pose ». Alors demain, qu'est-ce qui se passera si, par exemple, faisons un peu de prospective prudente, si un Google de l'information se créait, c'est-à-dire arrivait à agglomérer toutes ces informations disparates qui sont produites par les blogueurs, chacun ayant des qualités différentes, mais on pourrait très bien imaginer un moyen de les classer, de les agglomérer pour que on arrive à créer, et là on rêve évidemment, un journal qui serait créé spontanément, un peu à l'image de ce que fait Wikipédia d'une façon assez statique, bien qu'elle intègre très rapidement les éléments d'information nouveaux. Eh bien on pourrait imaginer une structure du même type qui agglomérerait des contributions venant de milliers d'internautes et qui permettrait d'avoir un journal d'actualité permanente mis en ligne sans aucun journaliste, ce qui serait effectivement une rupture très importante avec la situation d'aujourd'hui. Alors si les médias, évidemment je ne pourrais pas conclure sans rappeler que si les médias sont confrontés à de graves difficultés, ce n'est pas uniquement à cause d'Internet, c'est aussi parce que, et là les débats de cet après-midi ont essayé d'en parler également, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à refléter la diversité de l'opinion publique et des véritables débats qui traversent la société. Luc Ferry d'ailleurs a rappelé la concurrence de la télévision, dont on parle très rarement, et il a entièrement raison de dire qu'aujourd'hui, un des concurrents de la presse écrite, c'est la télévision, qui a longtemps été méprisée, mais qui, de par sa diversité et de par, il faut le reconnaître, une augmentation de la qualité de certaines émissions et de certains reportages, apporte des choses que la presse écrite est de moins en moins capable d'apporter du fait de la diminution de ses moyens financiers et de la diminution également donc de la qualité et de la diversité de la richesse de l'information qu'elle produit aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que aujourd'hui reste trois domaines dont on peut penser qui sont protégés de cette concurrence dont je parle de la part des blogueurs et des autres sites internet. Il est clair que l'enquête approfondie, le reportage sur le terrain ou l'analyse sont des choses qui sont très difficiles à concurrencer par un blogueur. C'est le cas aujourd'hui, mais on peut pas, je pense, être totalement certain que demain ça sera la même situation et que on ne trouvera pas également des articles de très grande qualité qui seront faits spontanément par des blogueurs. Moi, personnellement, j'espère qu'effectivement la presse et les journalistes vont trouver leur place, c'est-à-dire une place dans laquelle les blogueurs ne seront pas exclus, mais effectivement amis, comme l'a dit Manuel Castells, il n'y a pas forcément d'opposition entre les deux. Je pense qu'il y a une complémentarité qui peut s'installer, mais pour ça, les journaux doivent conserver un certain auditorat, et quand Luc Ferry condamne l'audimat, il se trouve que sans lecteurs, aucun journal ne peut vivre, et que la recherche de lecteurs est si vitale qu'on peut difficilement reprocher aux journaux de la rechercher dans ce contexte-là, dans le contexte d'abondance qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps dans la presse. Eh bien, il n'y avait pas les mêmes contraintes et on pouvait se permettre de ne pas trop se préoccuper de l'audimat. Mais ça a bien changé et il faut voir que Internet aujourd'hui a 15 ans, c'est un véritable adolescent, et donc il va falloir tenir compte de son évolution et se poser des questions. Alors la révolution d'Internet, elle peut connaître des restaurations, on a vu que celle qui est née dans ces lieux en a connu également, mais il est peu probable qu'elle façonne un monde qui soit très différent de celui d'aujourd'hui. Les journalistes donc étaient naguère les rois de l'information, aujourd'hui doivent apprendre à partager le quatrième pouvoir avec l'ensemble de la population. Alors faut-il le déplorer ou s'en réjouir? C'est un peu à vous de répondre. Merci.
Alors, il est tard, mais je pense quand même qu'il y a place pour quelques questions, raccourcies si possible. Et voilà, madame devant, si vous voulez bien, Mathilde. Ou Céline. Madame Devant. Signalez-vous ceux qui voudraient poser des questions et aller à l'essentiel, si possible. Vous avez deux. Merci.
Je suis contente que vous ayez parlé de la qualité et de l'écriture et de l'analyse, parce que, à mon sens, le salut de la presse, ça sera effectivement sa capacité à analyser l'information. La presse est porteur d'information, mais elle n'est pas que porteur d'information. Elle doit analyser. Effectivement, des journaux comme Le Monde le font, d'autres ne le font pas. Mais je pense que son salut passe par ce biais-là. C'est accroître encore la qualité de l'analyse, faire intervenir des compétences, et pas... Le blogueur, il n'est pas forcément compétent. Il a des opinions, il a des idées, mais il n'est pas forcément capable d'analyser une information dans toute son intégralité.
Qu'est-ce que vous en pensez à chacun pour... Michel, d'abord. Et ensuite...
Le blogueur n'est pas forcément incompétent. Et vu le nombre de blogueurs, il est très improbable qu'il n'y ait pas de blogueurs compétents dans cette masse-là. Ensuite, pour l'analyse, je suis d'accord avec vous, je l'ai cité, mais en même temps, je pense que sur certains sujets, et on le voit, les journaux aujourd'hui font appel à des économistes pour faire des analyses économiques, à des juristes pour faire des analyses juridiques, déjà aujourd'hui, et pas à des journalistes. Donc la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui va rester aux journalistes ? Je ne suis pas sûr que l'analyse reste définitivement, ou du moins exclusivement, entre les mains des journalistes. Il pourrait y avoir un partage aussi, qui existe déjà sur ce sujet. Et je pense que c'est plutôt, d'ailleurs, le reportage et le reportage sur le terrain, ou bien l'enquête approfondie, journaliste d'investigation, là, restait encore plus hors de portée du citoyen ordinaire que l'analyse elle-même.
Manuel, une remarque ?
Simplement, je pense que l'essentiel, ce qui reste vraiment aux grands médias, c'est la crédibilité. Ça, c'est la chose. Et si on perd ça, on perd tout. Et l'autre chose, c'est, je suis d'accord, sur la qualité. Mais la qualité de l'analyse, il faut quand même qu'elle soit branchée sur l'actualité. Parce que faire une sorte de revue de sciences sociales, ça ne marche pas en journalisme. Donc c'est avoir une équipe qui est capable de réagir en temps réel, en une journée, en deux journées, à des choses qui sont importantes dans l'actualité, mais avec un commentaire analytique. Au lieu de commencer par un commentaire, et ensuite il y a une information qui s'échappe. L'autre chose que je voulais dire, c'est que la presse, si j'observe empiriquement ce qui se passe dans la presse mondiale, d'un côté, il y a cette tentative d'une différenciation par rapport à Internet sur ces deux plans, mais le plus important, c'est que de plus en plus, on a une presse idéologique. On a des médias, pas seulement idéologiques, c'est-à-dire qui se caractérisent avant tout pour être drapeau de ralliement de certaines thèses. Les données dont on dispose montrent que la plupart des gens ne lisent pas des journaux ou regardent la télé pour trouver de l'information, mais pour confirmer ce qu'ils pensent. Et que donc, par exemple, aux États-Unis, Fox News, les gens qui regardent Fox News ne regardent que Fox News. Les gens qui font la National Public Radio ne font que la National Public Radio et ils ne se parlent pas. Et donc, quand Fox News a décidé qu'il fallait défendre surtout la guerre en Irak, c'est une stratégie de business. C'est pas de l'idéologie. Murdoch n'a pas d'idéologie, sauf l'argent. Et donc, il faut quand même compter que, alors qu'Internet, il y a une variété énorme d'opinions, et ce qui se passe de plus en plus, c'est que les médias sont politiquement, idéologiquement alignés. Et ça, c'est la réalité la plus importante dans les médias. Et en ce sens, vraiment, je regrette la crise du Monde, parce que c'était un des rares exemples qui montrait que c'était possible quelque chose d'autre.
Michel, alors, oui,
par ailleurs, le pays a aussi une crise.
Juste un mot sur cet engagement et sur cette idéologie. Le Monde a eu l'évolution totalement inverse. C'était un journal qui était classé fortement à gauche et qui s'est volontairement et sciemment plutôt dépolitisé pour essayer justement d'élargir un petit peu son lectorat. Enfin, du moins, c'était la théorie. Dans la pratique, ça ne s'est pas vraiment vérifié. Et peut-être ça a été une erreur.
Une autre question, madame ?
Bonsoir et merci. Dans certains pays, j'ai entendu dire qu'on fermait certaines informations. Est-ce que ça peut se généraliser
sur Internet?
Oui et non, c'est-à-dire, d'abord, les gouvernements détestent Internet, tous, et donc ils essayent toujours de trouver des formes de censure. Mais ce n'est pas si facile que ça. Clinton a essayé deux fois, la Cour suprême l'a arrêté. Celle aussi l'a essayé, le Conseil constitutionnel l'a arrêté. Le gouvernement de Labour d'Angleterre l'a essayé, la Chambre des Lords l'a arrêté. Donc, d'abord, ce n'est pas facile légalement. Alors, dans les pays totalitaires, disons la Chine, hein, ces grands pays communistes capitalistes, la Chine fait tout pour contrôler Internet. Il n'arrive vraiment pas. Pourquoi il n'arrive vraiment pas? Parce que, comment on fait matériellement, techniquement, le contrôle d'Internet? Il y a des billions et des billions de messages d'informations, etc. Et oui, d'accord, on peut bloquer le New York Times, mais il y a des tas d'autres caractéristiques, d'autres websites qui sont... Alors, matériellement, c'est des robots. C'est des robots qui font des analyses de contenu automatique sur des mots. Il y a en fait une liste de 60 mots. Alors, si on communique n'importe quoi, ne disant pas les gros mots, les mots dangereux, démocratie, Tibet, Taïwan, Tiananmen, pornographie, si on n'a pas un de ces mots, les robots ne savent rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement chinois? Ils font simplement, ils surveillent les suspects habituels. Alors, bien sûr, si tu es déjà suspect, ben, ils vont contrôler ton compte. Mais sur l'ensemble des 350 millions de Chinois, très peu de possibilités d'exercer une censure. So, tentative, oui. Pratique, très faible.
On va prendre encore une question. Oui. Université, hein, tu m'avais expliqué que... Oui, vas-y. Dans le micro, on n'entend pas.
J'ai essayé le site Université de tous les savoirs, je ne suis pas arrivée à l'atteindre. Bon, passons. Mais je voudrais savoir justement si, comme vous l'avez dit pour l'Iran, en Chine, Internet permet une prise de conscience et à terme arrivera à modifier le système.
En Chine en particulier. Bon, surprise, le problème c'est que les Chinois appuient leur gouvernement. Les données montrent que 72% des Chinois sont très fiers de leur gouvernement, et cette histoire de démocratie, ça ne les concerne pas. Ils n'ont jamais vécu la démocratie, ils sont dans une société de consommation qui se développe. Alors les tensions sociales en Chine, c'est les grèves ouvrières qui ont commencé il y a un mois, c'est les révoltes paysannes, c'est les révoltes urbaines contre des gens déplacés. La démocratie, ça ne s'achète pas. Donc, alors, dans l'avenir, oui. Dans l'avenir, tout ce qui est développement d'Internet est lié à un certain développement d'information et de conscience. Enfin, je peux dire une chose, c'est que le nouveau département d'État américain, Hillary Clinton, on lance une nouvelle politique de communication par rapport au monde. Au lieu de faire de la propagande, qui sert à rien, ils sont en train de soutenir le développement d'Internet partout, mais pas pour dire certaines choses ou dans certains websites, simplement le développement d'Internet, parce qu'ils pensent que sur le long terme, ça fait plus pour la démocratie que leur raconter les vertus de la démocratie américaine.
Je crois qu'on va... Je propose d'en rester là. On a eu une journée bien chargée. On a eu deux dernières communications exceptionnelles. Eh bien, donc, on les remercie beaucoup.